L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM.
Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Souvenir FM. Il est midi pile et vous êtes bien à l'écoute de l'invité du 12-13, votre émission quotidienne qui met à l'honneur les acteurs de votre vie locale. Aujourd'hui, ce jeudi 20 février 2025, nous avons le plaisir de recevoir Eddy Chevalet, forgeron coutelier. Bonjour à vous Eddy, comment allez-vous ?
Bonjour Nicolas, merci beaucoup, je vais très bien, merci beaucoup pour votre invitation.
C'est un plaisir partagé, il n'y a pas de souci Eddy. Au programme de cette heure, nous allons discuter autour de votre parcours, de ce métier de forgeron coutelier. Mais avant de commencer, place au Flash Info national et international, restez avec nous, on revient tout de suite.
Souvenir FM, un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM.
L'essentiel de l'info, c'est maintenant.
Bonjour à tous. Le déficit du système de retraite en France devrait avoisiner les 15 milliards d'euros en 2035 et 30 milliards d'euros en 2045, selon les estimations de la mission flash de la Cour des comptes. Le rapport sorti ce matin servira de base aux discussions des partenaires sociaux, avec notamment la possibilité d'une introduction d'une part de capitalisation. Emmanuel Macron reçoit les chefs de parti à l'Élysée depuis la fin de matinée pour aborder le dossier ukrainien. Le chef de l'État devrait se rendre à Washington la semaine prochaine afin d'échanger sur ce dossier avec son homologue américain. Les députés, eux, se penchent aujourd'hui sur les PFAS, ces polluants éternels massivement présents dans la vie courante, mais dont l'impact sur la santé inquiète. Les écologistes profitent de leur niche parlementaire pour proposer une loi visant à interdire la fabrication et la vente de certains de ces PFAS. En Guadeloupe, 112 000 personnes restent privées d'eau après des sabotages sur le réseau de distribution d'eau potable dans un contexte de conflit social dans l'archipel. L'intersyndicale du syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe estime que cela ne fait que révéler le manque de modernisation des ouvrages qu'il dénonce depuis plusieurs semaines, démentant toute implication dans ces dégradations. À l'international, le Hamas a remis ce jeudi au comité international de la Croix-Rouge les dépouilles de 4 otages enlevés lors des attaques du 7 octobre 2023, conformément à l'accord de trêve dans la bande de Gaza. Parmi ces victimes, la femme et les 2 enfants de la famille Bibas, dont le père avait été libéré la semaine dernière. Sport et football, le PSG s'est montré sans pitié face à Brest hier soir lors du match retour de barrage de la Ligue des Champions. Après leur victoire 3-0 la semaine dernière, les Parisiens se sont opposés hier soir 7-0 et se qualifient donc pour les 8e de finale de cette compétition européenne. Sport toujours et du biathlon à suivre aujourd'hui à l'occasion des championnats du monde à Lanzerheide en Suisse. Au programme aujourd'hui, le relais mixte simple. Julia Simon et Quentin Fillon-Maillet, les 2 Français forts de cette édition, défendront les chances de la France.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
Et nous revoilà sur Souvenir FM, toujours en compagnie de notre invité du jour, Eddy Chevalet. Alors moi, Eddy, j'avais une première question à vous poser. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours et de ce qui vous a conduit à devenir forgeron coutelier ?
Oui, bien sûr. En fait, ce qui m'a conduit à devenir coutelier, c'est tout simplement un jour, on m'a offert un stage chez un coutelier pour fabriquer son propre couteau. Donc c'est un stage qui a duré 5 jours. Donc c'était un stage assez complet et ça a suffi pour me faire le déclic et ainsi devenir coutelier. Voilà. Après, c'est beaucoup d'heures aussi autodidacte puisque j'ai fait que cette formation-là. Mais c'est avant tout la passion et puis le travail que j'ai fait de mon côté. Voilà.
Très bien. Alors, vous avez la double facette, coutelier et forgeron. Comment ça s'explique ? Comment ça se décline ?
Alors, ça s'explique tout simplement parce que pour faire un couteau, il y a plusieurs techniques. Il y a l'assemblage. Il y a aussi le fait de pouvoir détourer de la matière sur un plat d'acier. Et il y a aussi le fait de pouvoir forger un morceau d'acier brut. Voilà. Donc, moi, je récupère des aciers ressorts et je forge.
Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu plus en détail de votre parcours et qu'est-ce qui vous a finalement mené à cet atelier à Seignos ?
Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai commencé ma vie professionnelle en gendarmerie. Donc j'ai fait 5 ans. J'étais dans une unité un petit peu spécialisée sur Évry. Ensuite, j'ai fait 1 an de sécurité dans le luxe sur Paris. Voilà, donc j'étais toujours en région parisienne pendant il y a quelques années. Et ensuite, j'ai fait 8 ans de police ferroviaire à la SNCF. Et j'ai toujours eu quelque part cet attrait pour le couteau, voilà, les armes blanches aussi, l'arme aussi en général. Mais voilà, depuis tout petit, j'ai toujours aimé les couteaux. Voilà, je pense que ça parle aussi à beaucoup de personnes.
Oui, évidemment, ouais. On en parlait justement en off. Oui. Finalement, on a un couteau dans les mains tous les jours.
C'est ça.
Et on s'en rend peut-être pas compte.
Exactement. Ouais. C'est vraiment l'outil qu'on utilise au quotidien, que ce soit à la maison, dehors. Voilà, c'est... On l'utilise, mais on fait plus vraiment attention.
C'est vrai.
Et c'est, moi, j'adore les couteaux. Je trouve que c'est un très, très bel outil.
On en parle justement. Qu'est-ce qui vous a attiré vers la coutellerie, peut-être la forge en particulier, Eddy ?
Alors, il y a aussi le côté artisanal. Il y a aussi le côté un petit peu récup. Voilà, comme je disais, moi, j'aime beaucoup les couteaux. Et quand j'ai fait ce stage, ça a été vraiment une évidence. Voilà, ça, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai pas fait ça avant, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant j'achetais des couteaux industriels, artisanaux, peu importe, mais je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, et du coup je me suis lancé, voilà, j'ai acheté ma première enclume comme ça sur les annonces et ainsi de suite.
Très bien, comment ça s'est fait un petit peu? Alors ça a été dur peut-être de trouver un petit peu, peut-être trouver sa signature, de savoir encore mieux travailler ce bois, justement cet acier. Comment s'est fait un petit peu ce travail? Ça a été long? C'est un travail de longue haleine?
Oui, ça a été long, c'est un petit peu laborieux, voilà, entre ce qu'on imagine et puis finalement ce qui se passe réellement au bout de la pince, du marteau, du feu, exactement. Etc. Il y a deux mondes, hein, mais ça, je pense que ça doit le faire pour beaucoup de monde. Hein. Quand on regarde un skieur ou un footballeur qui joue avec le ballon, ça a l'air facile. Et pourtant, oui. Jongler, ça, c'est très compliqué, etc. Ben là, c'est un petit peu pareil. Ça a l'air simple, mais finalement, ça demande quand même un peu de technique. Et voilà, c'est les heures et les heures que j'ai passées de mon côté, puisque jusqu'à maintenant, j'ai été assez discret dans mon atelier, mais je commence à sortir un petit peu.
Il faut au bout d'un
moment. Il faut sortir, il faut se faire connaître. Voilà, donc je viens vous voir. Voilà, c'est ça.
Et ben, c'est avec plaisir. Alors moi, j'avais une autre petite question. Peut-être, alors, je suis totalement ignorant,
hein, ouais,
je vous l'avoue, dans ce domaine-là. Est-ce qu'il faut, il y a une certaine précision dans le geste, peut-être une certaine précision, il faut respecter des étapes. Comment ça se passe un petit
ouais,
peu?
Il y a pas mal de choses à respecter. C'est vrai que quand j'encadre des stagiaires qui viennent me voir, donc c'est le temps d'une journée, mais c'est vrai que quand je me mets à la place des gens, quand j'écoute un petit peu aussi ce qu'ils me disent, souvent on voit le forgeron comme quelqu'un de très musclé. C'est un petit peu, voilà, les légendes aussi, c'est un petit peu comme ça qu'on voit le forgeron, c'est quelqu'un de très grand, très musclé, peut-être typé un peu viking, qui tape très très fort sur une enclume et où il faut avoir beaucoup de muscles, alors que pas du tout. L'acier, voilà, à 900 degrés, il est un petit peu mou aussi, un petit peu, et il faut beaucoup plus de dextérité, de sagesse dans la frappe du marteau que de puissance.
Ouais. Alors, on a notamment ces mauvaises, ces clichés,
un ouais,
petit peu, on
bien en sûr, parlait
justement off un petit peu de ce couteau. On sait que voilà, le couteau a peut-être pas souvent une bonne image, mais en fait, il est essentiel.
Oui.
Il est essentiel à notre vie.
Oui, et puis il est à la fois essentiel puisqu'on en a besoin vraiment tous les jours. Hein, et puis bah, malheureusement aussi avec l'actualité, puis le côté moderne maintenant qu'on a aussi dans la vie, voilà, il est un petit peu mal vu. C'est un petit peu le voilà, c'est pas. Mais sinon. Ça rappelle beaucoup de souvenirs aussi à beaucoup de monde. Voilà, moi, je suis de la génération des années 80 et c'est vrai que quand je côtoie des gens, ils ont tous ce souvenir du papy qui avait ce couteau, qui le sortait à chaque occasion. Voilà, je pense que ça peut-être que ça va revenir, j'espère.
Oui. On en parlait peut-être. Alors, vous faites peut-être ce travail un petit peu de pas de sensibilisation, mais peut-être voilà de délier un petit peu, de délier un petit peu les langues par rapport à ce couteau qu'on assimile souvent à de mauvaises choses, à des choses négatives.
Ouais. Alors quand je fais des marchés, etc. C'est vrai que j'ai les gens qui sont pour eux c'est une arme en fait. Évidemment. Avant tout. Hein. Malheureusement, ben ça dépend. Comment on voit la chose, est-ce qu'on a l'actualité, etc. Mais j'en parle, oui. Alors après, il y a un petit travail, mais ce n'est pas réellement un travail. Mais il y a celui, voilà, il y a celui pour qui ça va être plutôt une arme, et il y a celui pour qui il y a la fascination oui. de l'objet, oui. vraiment le couteau. Alors si en plus il est fait 100% à la main, alors là, c'est encore plus beau.
Oui, ça dépend souvent de l'opinion, de la vision de certaines personnes, de voir un petit peu le côté artistique
ouais.
derrière un petit peu la construction. Est-ce que, Eddy, vous pourriez un petit peu nous détailler, un petit peu nous décrire les différentes étapes de la création d'un couteau ?
Ouais, alors les étapes, voilà, dans le monde de la coutellerie, il y a celui qui va forger pour ensuite faire un couteau. Ensuite, en gros, il y a celui qui va détourer, comme je disais tout à l'heure, la matière pour faire un couteau. Et après, il y a la dernière catégorie où c'est plutôt de l'assemblage. Voilà, les lames et le manche arrivent déjà fabriqués en usine et il faut assembler. Moi, dans mon atelier, je découpe un morceau de suspension de voiture. C'est de l'acier à forte teneur en carbone. Et ensuite, il faut le mettre dans la forge à charbon de bois. On le fait rougir, 900 degrés à peu près, d'accord, pour ensuite le mettre en forme. Voilà, il faut respecter les températures parce qu'il ne faut pas non plus abîmer l'acier parce qu'on va en faire un outil, hein, avant tout. Mais voilà, on forge pour mettre en forme.
Très bien. Comment se passe un petit peu au niveau de, alors, justement, la finition peut-être avec ces petits manches? Alors, je sais que vous utilisez du bois. Comment ça se passe un petit peu?
Alors, c'est toujours dans l'esprit aussi de récup parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le détournement d'objets. Donc, je fais aussi des couteaux avec des anciennes limes. En général, je garde cet aspect brut de forge qu'on appelle en couturier brut de forge. Donc, c'est cette calamine, c'est ce noir qui ressort de la forge. Mais je récupère soit le bois avec l'ébéniste, le menuisier avec qui je partage mon atelier, soit on m'en apporte aussi maintenant. Le bouche-oreille fait son travail. Mais j'essaye au maximum de ne pas acheter parce qu'il y a encore de très belles choses. Voilà, du buis qui est mort sur pied, du chêne, etc. Voilà, c'est de l'olivier, des anciennes planches à découper, etc. J'essaie de récupérer. Ouais.
Très bien. Est-ce qu'il y a peut-être des matériaux qui sont optimales justement à l'élaboration de couteaux, Eddy?
Alors, les matériaux, non, c'est juste simplement que ce soit... déjà, l'acier carbone, c'est un très bon acier, hein, pour les couteaux. Voilà, y a, d'un côté, il y a les aciers inox, ce qu'on a au quotidien dans la maison, voilà, qui rouille pas, etc. Et puis moi, j'utilise de l'acier carbone, qui est un acier d'outillage. Donc c'est souvent dans le monde de la coutellerie, c'est un acier qui est quand même réputé, qui est quand même reconnu pour sa dureté, etc. Donc c'est voilà pour les personnes au quotidien. Un acier qui rouille, c'est souvent quelque chose de négatif. Ça peut laisser penser que c'est pas de bonne qualité, alors que pas du tout. Souvent les anciens, pour revenir encore à ce que je disais tout à l'heure, les anciens préfèrent un couteau au carbone parce que ça s'affûte bien, ça garde un tranchant durable quand on s'en sert correctement aussi. Ouais.
Très bien. Eddy, je vous propose de faire une première pause musicale. Et on se retrouve juste après, ça va ?
Merci beaucoup.
Allez, à tout de suite sur Souvenir FM.
Souvenir FM. Un jour, un invité, c'est le 12-13 de Souvenir FM.
À Saint-Paul-les-Dax, j'écoute Souvenir FM sur 88.6.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine, Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
Et nous sommes de retour en direct, toujours avec Eddy Chevalet. Eddy, ça va toujours ?
Je suis toujours là.
Alors Eddy, on a un petit peu parlé de ce métier de forgeron coutelier, mais moi j'aimerais m'intéresser aussi à votre atelier,
oui.
Lame de Forge. Vous êtes basé à Seignos depuis quelques années.
C'est ça.
Alors qu'est-ce qu'on y retrouve dans votre atelier, Eddy ?
Eh bien, on y retrouve principalement l'enclume qui trône au milieu de l'atelier. Alors, c'est pas très grand, ça fait quoi, 20-25 mètres carrés. Alors, je partage mon espace avec un menuisier, qui lui a un petit peu plus grand espace. Mais voilà, on retrouve le backstand aussi. Donc ça, c'est une machine un petit peu spécifique qui est très spécifique au milieu de la coutellerie. C'est une bande abrasive qui tourne. On pourrait appeler ça une ponceuse stationnaire avec une bande de 2 mètres qui tourne. Voilà.
Très bien. Est-ce qu'il fait toujours chaud dans un atelier ?
Et non, en général, les couteliers, les ateliers ne sont pas très, très bien isolés. C'est le cas ici. Voilà. Quand il fait très, très chaud, on a très chaud, encore plus devant la forge. Quand il fait froid, ça va un petit peu mieux, mais on s'adapte.
Le mieux, c'est de travailler l'hiver, finalement, peut-être ?
Ouais, là, en ce moment, on est très bien. Voilà, il fait une dizaine de degrés dans l'atelier, 10, 15, voilà, et il fait très bon devant la forge à charbon. Ouais.
Très bien. Moi, j'avais une autre question, Eddy. Alors, on a parlé un petit peu de l'étape de création de ces couteaux, mais est-ce qu'il y a peut-être des moments un petit peu délicats quand on élabore un couteau, peut-être ? Est-ce qu'il y a des moments qu'il ne faut pas louper ?
Exactement. Alors en général, on connaît la trempe. Voilà, la trempe, c'est la technique qu'on utilise pour durcir l'acier. Donc ça rentre dans la catégorie des traitements thermiques. Souvent, les gens, encore une fois, connaissent la trempe, mais il y a plusieurs choses à faire avant. Il y a les normalisations, justement, aussi. Il y a le recuit, il y a le revenu. Donc, tout ça, je l'explique quand les gens viennent me voir à l'atelier. Mais c'est vraiment le moment le plus délicat, même pour moi, puisque je travaille de façon artisanale. Hein. Je chauffe la lame dans le feu de forge pour ensuite la tremper dans l'huile pour lui donner toute sa dureté. Et c'est vrai que c'est oui ou c'est non. soit ça s'est bien passé, soit ça s'est mal passé. Voilà.
Et dans les cas où ça se passe mal, qu'est-ce qu'il
en général, la lame est cassée.
La lame se casse.
Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Il y a une grosse fêlure, puisque l'acier a tellement durci, a tellement travaillé, qu'elle vient à se casser. Alors, je mets toutes les chances de mon côté pour que ça se passe le mieux possible. Mais c'est vrai qu'au début, ça a été un peu compliqué. Ouais.
Très bien. Et ça arrive souvent, ce genre de choses ?
Alors, heureusement, maintenant, ça n'arrive plus trop souvent.
Vous maîtrisez le geste.
Exactement. Il faut maîtriser le geste. Il faut maîtriser aussi le respect de la forge. Voilà, il faut respecter aussi son acier. Hein. Il faut en prendre soin. Donc, voilà. Et puis, on met toutes les chances de son côté pour que ça se passe le mieux possible. Mais oui, avant, il y a quelques années, ça, c'était compliqué.
Très bien. Combien de temps on met à élaborer un couteau, Eddie ? Alors, même si en fonction de ta taille, ça prend à peu près combien de temps ? Ça peut prendre une journée ?
Voilà. Alors, le temps, je le dis, c'est une des questions qui revient souvent à l'atelier, mais malheureusement, j'ai du mal à répondre, puisque si je vais faire un petit objet, ça prend, c'est très rapide. Si je fais un couteau, voilà, peut-être un couteau pliant de style Opinel, ouais, avec une lame qui fait 8-9 cm, je vais mettre peut-être une demi-journée. Un stagiaire mettra, lui, une journée entière. Et quand des fois je fais des gros couteaux, ben là, voilà, chaque centimètre en plus forgé, ben c'est du temps. Voilà, tout est chronophage. Hein, quand on fait tout à la main, tout prend du temps.
Très bien. Est-ce qu'il y a des couteaux peut-être qui peuvent mettre plusieurs journées à être élaborés, ou ça peut se faire en une journée, une seule fois ?
Non, ça dépend de la finition aussi. Hein. Je parle souvent aussi de peinture. Voilà, quelqu'un qui va peindre une toile qui sera très grande, et puis un paysage avec beaucoup de détails, bah, prendra beaucoup plus de temps que de l'art abstrait, peut-être avec une toile blanche et juste un petit point au milieu. Voilà, dans la couturerie, c'est un petit peu ça. Alors, moi, j'ai un style un peu particulier qui donne un aspect un peu rustique, un petit peu à l'ancienne. Donc, il n'y a pas grand-chose qui brille. C'est très travaillé, très texturé. Donc, ça, par chance, quelque part, ça me demande un petit peu moins de travail qu'une lame qui est polie, miroir, qui va demander de nombreuses heures de travail.
Très bien. On parle un petit peu plus en profondeur un petit peu de ce métier de forgeron coutelier. Est-ce que c'est un savoir-faire qui se perd ? Est-ce que c'est un savoir-faire qui se transmet ?
Alors, quand j'étais petit, j'avais l'impression que ça se perdait parce que j'en voyais pas à tous les coins de rue. Moi, j'ai remis un petit peu, quand je suis tombé dedans il y a quelques années, j'ai l'impression que ça revient, parce que le monde de la coutellerie, c'est un petit monde. Je vois de plus en plus de gens s'y mettre aussi. Il y a eu ce phénomène aussi Covid, hein, où tout le monde a vu aussi peut-être leur entourage se mettre à la broderie, ou enfin bref, à tout un tas de choses. Ça, voilà, le Covid a changé aussi les mentalités. Mais je pense que ça revient. Non, ça revient. C'est un peu comme le vintage, ça revient à la mode.
Donc, il y a une forme de transmission, un petit peu, de savoir-faire. Ouais. Vous sentez que... Est-ce que vous faites partie des personnes qui souhaitent un petit peu transmettre ce savoir-faire ?
Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'en vis depuis quelques mois maintenant, mais c'est vrai que la dernière fois, j'ai reçu un étudiant en BTS qui voulait faire le profil d'un artisan. Donc, je l'ai reçu avec grand plaisir. On a passé une petite après-midi ensemble. Je reçois des gens qui s'y intéressent. Voilà, c'est pas que se former ou que acheter. C'est sur les marchés, il y a des papas, des mamans qui essaient d'expliquer aux enfants comment est-ce qu'on arrive à avoir un couteau entre les mains. C'est pas que d'acheter, etc. Ouais.
Donc il y a un vrai côté, un vrai savoir-faire qu'il faut respecter.
Mais oui, bien sûr. Ouais, il faut travailler correctement. Moi, on m'a donné les bases. Maintenant, avec Internet, hein, on a de la chance. On a beaucoup de choses, beaucoup d'informations sur Internet. Donc celui qui veut s'intéresser à quoi que ce soit, il peut se renseigner sur Internet. Mais voilà, il faut passer de nombreuses heures de son côté, parce que Internet et les images, les vidéos ne font pas tout. Mais voilà, c'est accessible à tout le monde.
Je suppose que c'est des heures et des heures de pratique pour arriver à une finition que vous voulez.
Ouais, c'est ça. Il faut, voilà, en plus, on part d'une matière aussi qui peut être... voilà, c'est des ronds qui font 12, 15 mm, 20 mm. C'est très gros. Donc, il faut s'y mettre. Voilà, on transpire un petit peu. Des fois, on se blesse, malheureusement. Il y a du chaud, il y a du froid, il y a du coupant, du piquant. Donc, il faut faire attention. Ouais.
Très bien. Est-ce que Eddie, il faut avoir cet attrait pour les métiers manuels, pour pratiquer ce métier ? Est-ce qu'il faut, peut-être une certaine préférence, certains attraits pour pratiquer ce métier de forgeron ?
Quand on le pratique au quotidien, oui, il faut quand même être passionné. Voilà, celui qui vient à l'atelier, qui fait ça tous les jours sans être passionné, c'est comme tout autre métier. Hein. Il faut déjà aimer ça pour ne pas voir le temps passer. Moi, chaque fois que je suis à l'atelier, c'est le temps et voilà, ça passe à une vitesse. Donc, c'est que quelque part, je suis au bon endroit.
Bien sûr.
Mais ceux qui viennent me voir pour faire leur couteau, ils ont de près ou de loin un attrait pour l'artisanat sans peut-être s'y être mis un jour, peut-être qu'ils n'ont pas de place, peut-être qu'ils sont en appartement. Et moi, je leur offre la possibilité justement, de, en leur mettant des outils entre les mains, de se faire plaisir.
Ouais. Très bien. On en parlera juste après, ouais. Eddie, justement, de ces stages que Super. Vous proposez. Moi, je vous propose de faire une seconde pause musicale et je vous laisse avec la rédaction pour le Flash Info local. Est-ce que ça vous va, Eddie ?
Allez, à tout de suite.
Allez, on se retrouve juste après.
Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM invite un acteur de votre actualité dans le 12-13.
C'était Where Do I Go de Vianney et Rosaline. Nous sommes de retour dans votre émission l'invité du 12-13 avec Edith Chevalet, forgeron coutelier. Alors on a parlé un petit peu de ce savoir-faire, on a parlé de, un petit peu de votre parcours. Mais il me semble que vous proposez quelque chose aussi, Eddie, vous proposez des stages.
Exactement, je propose, alors des stages, j'ai du mal à proposer le mot stage, parce que pour moi stage c'est vraiment quelque chose de long, ouais, voilà. Long, etc. Je parle plutôt d'initiation, d'immersion, le temps d'une journée, voire deux si le projet est un peu plus conséquent, mais souvent c'est le temps d'une journée, voilà, pour venir forger son propre couteau, ouais, bien sûr.
Très bien. Quelles compétences les participants peuvent-ils acquérir lors de ces ateliers, lors de ces stages d'initiation ?
Alors, il y a ceux qui viennent parce qu'ils ont eu un cadeau, parce qu'ils s'intéressent au couteau, etc. Donc, c'est une manière pour eux de faire une activité. Il y a ceux qui viennent me voir parce qu'ils ont peut-être dans l'idée aussi d'en faire un métier, peut-être futur, etc. Mais voilà, en tout cas, pour venir à l'atelier, il faut pas de compétences particulières, si ce n'est voilà, deux bras et puis l'envie de travailler un petit peu. Ouais.
Très bien. Donc, il faut mettre un petit peu, enfiler un petit peu son tablier.
C'est ça.
Y aller.
Le fameux tablier de forgeron que je prête. Voilà. Et on se met dans la peau du forgeron le temps d'une journée. Ouais.
Très bien. Alors, on parle un petit peu de cette déclinaison. Alors, vous me parlez notamment d'une demi-journée, d'une journée entière. Est-ce que c'est des couteaux qui sont différents ? Comment ça se passe ? On peut faire un petit couteau, un plus grand couteau ?
Oui, alors, bien souvent, les gens viennent me voir pour faire un couteau pliant. C'est ce qui parle le plus aux gens. Voilà, le fameux couteau pliant avec une lame d'une dizaine de centimètres. Mais je propose aussi une matinée ou une après-midi pour faire un kiridashi. Donc, c'est un terme japonais, mais c'est pour que les gens puissent visualiser. C'est un objet d'une dizaine, 10, 12 centimètres qui ressemble à un cutter qu'on a à la maison, sauf que là, c'est tout forgé, c'est tout façonné au marteau. Et ensuite, il y a une partie coupante, voilà, de 3-4 centimètres pour ouvrir les colis, le courrier, ce qu'on veut.
Très bien. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet échange, dans cette transmission, Eddie, cette volonté de peut-être avoir du contact avec les gens, de pouvoir rencontrer, de pouvoir transmettre?
C'est ça. Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi le contact. Je trouve que aujourd'hui, ça se perd beaucoup. Alors, d'un côté, j'aime aussi ma petite solitude, hein, dans l'atelier. Des fois, il est 6-7 heures le matin, je suis tout seul et c'est très bien. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup recevoir. J'aime beaucoup, je trouve que de discuter avec quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'on fait, c'est toujours... valorisant aussi. Et puis quand moi j'en parle souvent avec passion et bien souvent dans les journées, ça c'est pas qu'on perd du temps, mais c'est vrai que quand j'explique beaucoup de choses, mais voilà, à celui qui voudra entendre aussi, hein, mais c'est, ouais, c'est passionnant, ouais.
Évidemment. On parle aussi peut-être de ces personnes qui viennent nous voir. Est-ce que souvent c'est gratifiant aussi de venir faire son petit couteau,
mais
et
oui,
de l'avoir et il est à soi finalement?
Complètement, ouais. Alors je dis souvent que le saucisson, le pâté aura meilleur goût avec un outil qu'on a fabriqué soi-même, mais les gens, ouais, j'ai beaucoup de chance parce que autant je me régale à fabriquer ce que je fais, etc., autant je me régale aussi quand les gens me remercient en fin de journée pour avoir passé une super journée. Et voilà, c'est un échange. Voilà. Moi, j'ai passé un super moment, eux aussi, et la boucle est bouclée. Voilà, y a plus qu'à recommencer, ainsi de suite.
Il y a des gens qui viennent peut-être souvent vous voir, peut-être qu'ils des têtes qui reviennent faire,
oui,
de nouvelles aventures, peut-être,
ouais,
de nouveaux couteaux.
Bien sûr. Ouais, là par exemple, comme je disais tout à l'heure en off, j'ai Joël qui va revenir. Y a ceux qui en parlent aussi, qui ont du bouche à oreille. Y a des fois des stagiaires qui me disent, bah tiens, je viens de la part de Maxime. Alors ça me fait d'autant plus plaisir que si on parle de moi, voilà, ça fait tourner ma petite artisanat. Voilà.
Très bien. Évidemment, c'est gratifiant aussi pour vous.
Mais oui.
De se dire que des personnes reviennent. Et alors, comment c'est possible ? Est-ce qu'il y a des gens, ils peuvent venir faire un projet différent ? Est-ce qu'ils peuvent vous proposer quelque chose ? Imaginons, voilà, j'ai peut-être envie de faire un couteau peut-être un peu plus imposant.
Oui, c'est ça.
Est-ce que c'est possible ?
Comment? Exactement. Voilà, moi, j'étudie tout projet. Alors, j'ai tendance à dire aussi que la forge, c'est très chronophage. Hein. Tout ce qu'on fait, voilà, chaque centimètre de lame forgée, etc., ça prend du temps. Mais j'étudie tout projet. Et la dernière fois, justement, j'ai un stagiaire qui est venu parce qu'il voulait faire un très gros couteau. Donc, ouais, du coup, voilà, on a réussi à faire son projet. Ça a pris un petit peu plus un peu plus de temps que d'habitude, mais oui, je suis à l'écoute, ouais, bien sûr.
Très bien. On sait, on en parlait en début d'émission, que le couteau est un objet essentiel. On parlait notamment de cette corrélation qu'il existe un petit peu entre les couteaux et cette envie d'aller dans la nature, de se retrouver face au monde, finalement.
Oui.
Un petit peu face à soi-même. Et avec ce petit couteau, souvent, bon, c'est un petit peu le premier objet qu'on embarque.
Oui, voilà. Pour moi, c'est l'objet primordial, hein, si on veut aller un petit peu dans les bois, prenez juste simplement la petite balade du matin pour aller chercher quelques champignons. Mais voilà, on peut tout oublier sauf son couteau.
Oui, c'est vrai.
C'est voilà. Et dès qu'on est dans les bois, on a un instinct peut-être même un peu primaire à vouloir tailler un petit peu un bâton, le mettre en pointe, fabriquer un petit quelque chose. Ouais, c'est pour moi, c'est l'outil indispensable.
Évidemment. On parle aussi peut-être des projets qui arrivent pour vous, Eddy. Vous m'avez parlé un petit peu de projets peut-être qui arriveraient.
Oui.
Pour votre atelier et pour vous.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Et oui, donc pour l'instant, je reçois un stagiaire à la journée. Donc c'est très bien, ça permet de cerner un petit peu les attentes. Mais j'aimerais bien recevoir un petit peu plus de monde et j'aimerais bien aussi m'agrandir. Pour l'instant, je suis dans une zone d'activité. Donc c'est très bien, c'est propice au travail. Mais mes projets, si je pouvais claquer des doigts, ce serait d'avoir un peu de terrain avec un petit corps de ferme et puis pouvoir recevoir un petit peu plus de monde et vivre un petit peu de ça, de pouvoir travailler la journée et puis le soir on se pose un petit peu, on se fait un feu, un barbecue et voilà.
Toujours avec son petit couteau dans la poche.
Eh oui, toujours.
Alors moi j'avais une petite question aussi qui me semblait importante.
Oui.
Qu'est-ce que vous suggérez peut-être pour l'entretien d'un couteau? Alors peut-être un de vos couteaux, imaginons, voilà, je viens à votre atelier, j'ai mon petit couteau.
Oui.
Qu'est-ce que vous me conseillez pour l'entretenir?
Alors déjà, c'est pas de lave-vaisselle, pas de choses voilà agressives. Au quotidien, hein, même moi à la maison, j'ai un couteau industriel, on met ça au lave-vaisselle et ça c'est pas très bon pour le couteau. Les couteaux qu'on fabrique nous à l'atelier, c'est de l'acier carbone. C'est un acier qui rouille, qui a tendance à rouiller si on le laisse mouiller. Donc il faut pas qu'il soit mouillé trop longtemps. Il faut le laver un petit peu à l'eau courante et puis le remiser sec et un petit peu d'huile de temps en temps.
Très bien. En termes, voilà, peut-être pour rendre la lame toujours intacte, peut-être de l'aiguiser, comment ça se passe à ce niveau-là?
Ouais, pour l'affûtage, on peut utiliser soit un fusil, soit une pierre à affûter. Alors je dis souvent aux stagiaires, puisque c'est la question qui revient souvent, tous les outils sont bons, c'est juste l'usage qu'on en fait qui est assez délicat. Voilà, quand on travaille à main levée sur une pierre japonaise, une pierre synthétique, un fusil, tout ça, il faut quand même apprendre à bien affûter ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais le simple outil qui est destiné à ça, oui, vous pouvez l'utiliser. Ouais.
On peut abîmer vraiment un couteau avec un geste peut-être
bien
imprécis.
Sûr. Ouais, on peut faire plus de mal que de bien. Il y a des fois des gens qui arrivent avec leur couteau fétiche, leur couteau qui a traversé les âges. C'est complètement abîmé parce que les gens font ça avec une meuleuse ou avec une pierre qui est trop grossière. On peut faire plus de mal que de bien. Des fois, il vaut mieux se diriger vers un professionnel. Maintenant, ça revient aussi à la mode, hein, les rémouleurs, etc. Vaut mieux se tourner vers eux. Ouais.
Très bien. Eddy, on marque une dernière pause.
Allez.
Et on se retrouve ensemble, on conclut cette émission ensemble. Est-ce que
ça
vous va?
Merci beaucoup.
Il n'y a pas de souci. Allez, à tout de suite sur Souvenir FM.
À tout de suite.
À Pouillon, c'est sur le 88.6 que j'écoute Souvenir FM.
Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Louane avec son titre « Comment faire ?». Nous sommes de retour pour conclure cette émission avec Eddy Chevalier, forgeron coutelier. Alors Eddy, où est-ce qu'on vous retrouve? Alors je suppose dans votre atelier à Seignos, mais vous avez des réseaux sociaux, un site internet. Où est-ce qu'on vous retrouve finalement?
Voilà, et bien, je suis donc mon atelier est à Seignos, dans la zone de l'Arrigan, et on me retrouve sur Instagram, Lame de Forge 40, voilà, tout attaché, et j'ai un site internet www.lamedeforge.com.
Très bien.
Voilà.
Eddy, peut-être vous auriez un petit message pour nos auditeurs qui souhaiteraient peut-être s'intéresser à ce grand monde de la coutellerie et peut-être.
Ouais, et ben j'invite qui veut voir travailler un forgeron à l'atelier, voilà. Le mieux étant de prendre rendez-vous, de me contacter en amont, puisque voilà, je suis soit avec un stagiaire, soit je suis en train de travailler et ça fait beaucoup de bruit, mais le mieux étant de me contacter pour un projet ou pour travailler ou pour simplement visiter. Ouais.
Très bien, et peut-être découvrir un petit peu ce savoir-faire unique.
Ouais.
Ce savoir-faire qui se perd mais qui ne se perd pas finalement.
Voilà,
donc.
On essaie de le faire découvrir, donc il ne reste plus qu'à s'y intéresser. Moi, je suis là, il faut venir me voir maintenant.
Très bien, il est temps pour moi de vous remercier, Dichevalu, merci beaucoup de
merci,
votre intervention.
Merci beaucoup à vous, merci Souvenir FM de m'avoir reçu, ça a été un grand plaisir et puis peut-être à un jour.
Oh, ben bien sûr, avec plaisir. C'était un plaisir de partager. Merci beaucoup,
Émilie
Chevalier.
Merci beaucoup. Merci.
Avant de conclure l'émission, j'aimerais vous annoncer que demain, l'invité de notre émission, l'invité du 12-13, sera le festival Chantons sous les pins. D'ici là, restez connectés à Souvenir FM. Dans quelques minutes, vous retrouverez le flash info national et international, suivi comme d'habitude de votre session musicale avec Christophe, jusqu'à 16h. Et nous, on se donne rendez-vous à 18h30 pour un point complet sur l'actualité locale. Je vous souhaite un excellent début d'après-midi à tous. Allez, à Dichatz.